Radio Vatican, France et Afrique.
Amis et fidèles auditeurs, bienvenue et merci d'être à notre écoute. L'actualité de l'Église de cette édition sera notamment marquée par les comptes rendus des activités du pape de la semaine. Le pape qui a reçu samedi 6000 membres de la Croix-Rouge italienne à l'occasion du 160e anniversaire de l'association. François, qui a aussi reçu les membres de la fondation Sant'Angela Merici de Syracuse à Rome à l'occasion de ses 50 ans. Au cours de ces deux rencontres, le Saint-Père a prôné la solidarité envers les nécessiteux. 30 ans du génocide advenu en 1994 au Rwanda. Vous écouterez le cardinal Antoine Kambanda, archevêque de Kigali, notamment sur les efforts de réconciliation et de reconstruction. Tout ceci dans l'actualité de l'Église. Manifestation des Congolais et sympathisants dans plusieurs villes européennes samedi pour dénoncer un protocole d'accord entre l'Union européenne et le Rwanda sur les matières premières. Mise en place du nouveau gouvernement au Sénégal. Nous en parlerons dans l'actualité sur Salé politique en Afrique. Au cours de cette édition, vous suivrez la méditation avec les lectures du deuxième dimanche des Pâques. Nous conclurons cette édition en parlant du dimanche de la Divine Miséricorde avec notre invité du jour, la religieuse ivoirienne Marceline Ebia, religieuse de la communauté catholique Mère du Divin Amour. Encore une fois, bonne condition d'écoute de nos programmes que nous émettons depuis la Cité du Vatican.
Radio Vatican, France et Afrique, Stanislas Kambashi.
Ouvrons l'actualité de l'Église de cette édition par la semaine du pape, les comptes rendus des activités du pape de cette semaine. Jacques Ngol.
La semaine du pape a été marquée notamment par les audiences et les rencontres. En recevant 6000 membres de la Croix-Rouge italienne ce samedi 6 mars au Vatican, le pape a soutenu l'effort humanitaire du mouvement qui célèbre cette année son 160e anniversaire au service des plus vulnérables, qu'il s'agisse des populations dans les zones de guerre ou touchées par les catastrophes naturelles. Dans un discours qu'il leur a adressé, François les a remerciés pour la mission accomplie par la Croix-Rouge dans un esprit fraternel, sans distinction de nationalité, de classe sociale, de religion ou d'opinion politique. Le Saint-Père les a encouragés à poursuivre cette œuvre qui consiste à intervenir avec efficacité dans tous les contextes où le vacarme des armes étouffe le cri des peuples, leur aspiration à la paix et leur désir d'avenir. Toujours samedi, François a accordé une audience aux membres de la Fondation Sant'Angela Merici de Sicarose à l'occasion de ses 50 ans d'activité au service de ceux qui vivent des situations particulières de fragilité, rappelant combien il est précieux de savoir sécher les larmes de ceux qui souffrent et en même temps de savoir pleurer avec ceux qui pleurent. François les a encouragés à poursuivre leur chemin sans avoir honte de pleurer, de s'émouvoir pour ceux qui souffrent. Dans la soirée de vendredi, le pape François s'est rendu dans la paroisse Saint-Enrico dans le nord-est de Rome où il a rencontré 35 prêtres dans le cadre de sa visite dans les paroisses de son diocèse. Toujours vendredi, en recevant les frères franciscains de Toscane dans le cadre des 8e centenaire des stigmates reçus par Saint-François en 1224, le pape les a invités à être porteurs de pardon, de guérison à ceux qui portent les cicatrices de la souffrance et de l'injustice subie, joyeux et simple dans la fraternité et avec la force de l'amour qui jaillit du cœur du Christ. Jeudi, le pape François a reçu les participants au premier colloque après sa visite au Kazakhstan, associant le dicaster pour le dialogue interreligieux et le congrès des religions mondiales qui a lieu dans ce pays. Dans son discours, louant la vocation du Kazakhstan d'être un pays rencontre, le pape a de nouveau lancé un appel à la paix, dénonçant les rhétoriques belliqueuses de nouveau à la mode et promu une saine laïcité entre l'État et les religions. Soyez des icônes du Christ et essuyez les larmes de chaque visage avec vos vêtements sacerdotaux. Le pape s'était ainsi adressé aux prêtres résidents de trois collèges pontificaux de Rome, notamment brésiliens, latino-américains et mexicains qu'il a reçus jeudi. François leur a entretenu sur l'amour de Dieu qu'ils sont appelés à maintenir vivant, notamment à travers le service, la prière et l'humilité. Mercredi, le pape François a poursuivi son cycle de catéchèses sur les vices et les vertus, abordant la justice, une vertu cardinale qui ne concerne pas seulement les salles d'audience des tribunaux, mais aussi l'éthique qui caractérise notre vie quotidienne. Pour vivre dans la justice, le Saint-Père a insisté sur l'importance de l'éducation, surtout des jeunes à la culture de l'égalité. C'est le moins, selon lui, de prévenir le cancer de la corruption et d'éradiquer la criminalité en lui ôtant l'herbe sous ses pieds.
Merci Jacques. Le génocide de 1994 au Rwanda, dont la commémoration a lieu le 7 avril, était une tragédie qui montre combien de mal la haine peut produire. 30 ans après, grâce aux efforts de réconciliation et d'unité, le pays qui était divisé se met ensemble pour travailler pour son développement et sa reconstruction. Des mots du cardinal Antoine Kambanda, archevêque de Kigali au Rwanda, à l'occasion des 30 ans de ces événements dramatiques. On l'écoute.
C'était un événement incroyable, une tragédie incroyable, de jamais vue. On voit vraiment la gravité du péché, de la haine et combien de mal ça peut faire. Une extermination systématique d'un peuple au XXe siècle devant les éclats du monde, sans secours, les viols, les tortures, les humiliations ignobles. C'était vraiment une situation terrible, très difficile à expliquer. Mais nous remercions Dieu, c'est grâce à Dieu que depuis 30 ans, on a pu sortir et dans la voie de réconciliation et de l'unité. Et ici, on voit, comme dit Saint-Paul, là où le péché a abondé, la grâce a surabondé, parce que un pays qui était détruit, une communauté qui était déchirée, maintenant unie et travaille ensemble pour se développer. C'est vraiment la grâce de Dieu.
Le cardinal Antoine Kambanda, archevêque de Kigali au Rwanda, vous l'écouterez plus longuement encore sur ces sujets dans nos prochaines éditions. Actualité sociale et politique en Afrique. Des Congolais d'Europe et toutes les personnes ayant à cœur la défense de la République démocratique du Congo étaient appelés à manifester samedi à Bruxelles, Paris, Milan ou Rome pour protester contre un accord signé le 19 février dernier entre l'Union européenne et le Rwanda sur l'exportation des minerais précieux, notamment pour les batteries des téléphones et surtout des voitures électriques. Plusieurs réseaux d'associations demandent l'abrogation de ces textes qui permet, selon eux, au Rwanda d'exporter légalement des minerais venus illégalement de RDC. John Palicia, membre de l'association Paix pour le Congo, explique les raisons de cette colère.
Cet accord devrait garantir la traçabilité, et la lutte contre la corruption, la lutte contre le trafic des minerais. Pour cette loi, nous avons vraiment beaucoup lutté, que ce soit la société civile italienne, que ce soit la société civile européenne et congolaise. Malheureusement, cette loi a été mal organisée, mal écrite, surtout à cause des lobbies des compagnies multinationales. Nous pensons que, en tant que Congolais, nous pensons que si réellement l'Union européenne avait besoin de ces minerais, elle ne devrait pas les demander au Rwanda. Donc, pourquoi l'Union européenne ne demande donc pas ces minerais directement au Congo et en exigeant le départ du Rwanda, le départ du M23 du Congo et surtout, si possible, en sanctionnant le gouvernement de Kigali parce que sinon, nous continuerons dans ce massacre ici.
John Palissa, membre de l'association Paix pour le Congo, des propos recueillis par Xavier Sartre. Le nouveau président sénégalais, Bassirou Diomaye Faye, a nommé vendredi un gouvernement qualifié de rupture, largement composé de visages nouveaux pour le grand public. Le gouvernement annoncé à la presse au palais présidentiel comporte 25 ministres, dont 4 femmes, aux affaires étrangères, aux pêches, à la famille et à la jeunesse et la culture. Il inclut également 5 secrétaires d'État. Le gouvernement ici mis en place ce 5 avril 2024 est un gouvernement de rupture. C'est un gouvernement qui incarne le projet, une transformation systémique plébiscitée par le peuple sénégalais le 24 mars 2024 à travers une élection au premier tour avec 54,28% des suffrages, a dit le Premier ministre Ousmane Sonko. L'ex-président d'une association d'étudiants africains subsahariens en Tunisie, arrêté le 19 mars, a été libéré, a annoncé l'association vendredi. L'association des étudiants et stagiaires africains en Tunisie a indiqué dans un communiqué que son ex-président, l'étudiant camerounais Christian Kongang, a été retrouvé et se porte bien. L'association avait alerté le 26 mars sur la détention de M. Kongang depuis le 19 mars, après qu'il s'est rendu dans un poste de police pour récupérer sa carte de séjour. Le père jésuite Laurent Bassanese nous introduit à la méditation avec les lectures du deuxième dimanche de Pâques, année liturgique B.
Cesse d'être incrédule, sois croyant. Ainsi s'adresse Jésus ressuscité à Thomas, qui était absent lors de la première apparition du Christ aux apôtres, le soir de Pâques. 8 jours plus tard, les disciples se trouvaient de nouveau ensemble à la maison, les portes closes, avec Thomas cette fois. Et le Seigneur se manifeste là encore en chair et en os, en leur donnant à tous la paix et en interpellant directement le disciple incrédule. Thomas représente tous les chrétiens qui ont du mal à croire à la bonne nouvelle, c'est-à-dire à la radicalité de la vie nouvelle inaugurée par la mort et la résurrection du Christ, ce qui implique aussi la défaite complète de l'adversaire et donc la fin du péché et de la tristesse. Il peut y avoir d'abord, pour différentes raisons, beaucoup de résistance à croire à la vie plus forte que tout, une vraie vie dans un vrai corps, au point que Jésus invite Thomas à toucher ses plaies. C'est bien lui, le crucifié d'hier. Il a traversé la mort et nous dit par sa présence glorieuse qu'une autre vie commence pour les hommes et aussi pour notre monde. Devant cette vie nouvelle, désormais vraiment possible en notre chair, grâce à la foi et dès maintenant, nous ne pouvons qu'être stupéfaits et émerveillés comme Thomas, l'ancien incrédule, et nous exclamer avec lui « Mon Seigneur et mon Dieu ». Cette joie profonde de la foi a des conséquences immédiates, aussi bien personnelles que sociales. Personnelles, car désormais le croyant voit toutes les réalités sous un autre regard, dans l'Esprit Saint, et pour lui, les commandements de Dieu ne sont plus un fardeau, comme le dit saint Jean. Social, car mu par la foi, il trouve facilement avec les autres croyants des solutions aux problèmes de la vie commune, en mettant par exemple spontanément ses biens à la disposition de tous, supprimant ainsi la misère autour d'eux, comme le rapportent les Actes des Apôtres. Tout être qui est né de Dieu est vainqueur du monde. La victoire de Pâques entraîne la défaite instantanée de l'adversaire, comme au moment du baptême ou lors de l'absolution des péchés après une bonne confession. L'amour du Christ qui se manifeste aujourd'hui est si grand que nous en avons la certitude, ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les principautés célestes, ni le présent, ni l'avenir, ni aucune autre créature, rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu qui est dans le Christ Jésus, notre Seigneur. Tout est possible aux croyants qui aiment, c'est-à-dire qui accomplit naturellement, facilement les commandements de Dieu. C'est la joie qui domine la vie du chrétien. Heureux ceux qui croient, dit Jésus ressuscité à Thomas le croyant. Le péché, les erreurs, l'obscurité, le doute, la tristesse, l'ambiguïté, la méchanceté, tout cela est fini. C'est fini dans le cœur du croyant qui refuse désormais cette vie du monde, car il en est vainqueur. Il a choisi une autre direction, celle que lui indique le Christ, une vie de témoignage, de service, de lutte pour la justice de Dieu.
Dimanche 7 avril, deuxième dimanche des Pâques, se célèbre la Divine Miséricorde, une fête instituée en 1985. Quel sens donner à cette célébration? Nous en parlons avec la sœur Marceline Ebia, religieuse de la communauté catholique Mère du Divin Amour, une congrégation fondée en Côte d'Ivoire. Dans cet entretien, l'enseignante chercheure en philosophie à l'Université catholique d'Afrique de l'Ouest, UCAO, nous parle de son expérience et sa dévotion à la Divine Miséricorde.
Le dimanche de la Miséricorde, d'abord, il faut dire que est célébré donc 9 jours après la Pâque. Donc, c'est chaque année qu'elle est célébrée. Et l'Église, en instituant ce dimanche de la Miséricorde, nous invite à faire l'expérience de l'amour et de la bonté de Dieu. Donc, chaque année que nous célébrons la miséricorde divine, c'est une manière pour l'Église de nous rappeler que Dieu est amour. Et d'ailleurs, c'est cet amour-là qui a amené le Christ à être crucifié. Donc, ben voilà un peu le contexte de la célébration du dimanche de la miséricorde.
Quel sens donnez-vous à la divine miséricorde?
Alors moi, quand je pense à la divine miséricorde, tout de suite, ma pensée va de l'évangile de Saint-Luc au chapitre 15, versets 11 à 31, l'histoire de l'enfant prodigue. Voici un enfant qui demande son héritage du vivant de son père. Il prend son héritage, il part, il le gaspille, et puis à un moment donné, il se trouve bréduit et il revient vers son père. Mais ce qui est impressionnant, c'est surtout l'attitude du père qui attendait l'enfant depuis longtemps et qui, lorsque l'enfant revient, il est tellement heureux, il accueille l'enfant qui se repentit et il tue le veau gras. Alors pour moi, la divine miséricorde, c'est vraiment cette image de Dieu Père, d'un Dieu de bonté, un Dieu qui ne nous rejette pas malgré notre état de pécheur. C'est-à-dire que chaque fois que je reviens vers Dieu et que je demande pardon au Seigneur, il m'accorde sa miséricorde. Pour moi, c'est extraordinaire.
Avez-vous une dévotion particulière de façon personnelle à la divine miséricorde?
Oui, j'ai une dévotion à la divine miséricorde. Parmi les prières pieuses de l'Église, les prières privées, j'avoue que la prière de la miséricorde divine fait partie de mes prières en tête de liste. Et c'est une prière que j'ai découverte dès mes premières années de vie communautaire. Et depuis, je ne m'en suis pas séparée. Je fais la prière de la miséricorde divine chaque fois que j'en ressens le besoin. Personnellement, c'est une prière que j'aime beaucoup et elle m'apaise énormément. Alors, il faut dire que moi, je vis de la miséricorde divine. C'est vrai que dès les premières années de ma vie religieuse, j'étais plus centrée sur Dieu justice. Et puis, petit à petit, c'est la figure du Père, de Dieu Père, Dieu amour, Dieu miséricorde qui s'est imposé à moi. Donc, c'est une spiritualité que je vis, que j'incarne moi-même. Et je suis aussi sur les réseaux sociaux, notamment sur TikTok. Et pendant mes lives, c'est vraiment la prière que je propose aux chrétiens. Et pendant plus de 3-4 mois, chaque matin, du lundi au vendredi, je faisais la prière de la miséricorde avec les chrétiens, avec mes TikTokers, avec ceux qui prient avec moi en ligne. Et pour moi, c'est vraiment la manière de diffuser cette miséricorde de Dieu. Et chaque fois qu'un chrétien ou n'importe quelle personne s'adresse à moi et que je vois que la personne est dans un élan de culpabilité, tout ce que je peux lui dire, c'est que Dieu est miséricorde. Et pour moi, le disant, c'est vraiment ma manière à moi d'être témoin de la miséricorde de Dieu, de la miséricorde divine.
Comment êtes-vous parvenu à cette conviction?
En fait, c'est que moi, quand je m'étais convertie au début, je m'étais dit que dès qu'on pêche, Dieu nous faisait de justice, c'est-à-dire qu'on était condamné soit pour le paradis, soit pour l'enfer. Et puis, petit à petit, j'ai vu que la miséricorde de Dieu dépasse même la justice. Vous voyez, la miséricorde de Dieu est plus forte que la justice. Et la justice, à mon sens, ce n'est pas Dieu qui nous fait justice. Ce n'est pas Dieu qui lève son bâton pour condamner. Mais c'est l'homme lui-même qui, en s'écartant de Dieu, impose cette justice de Dieu. Sinon, le monde qui va mal avec les guerres, les violences, les injustices partout et nulle part, c'est vrai qu'on a l'impression qu'il n'y aura que le bâton de Dieu levé sur nous comme une épée. Mais je suis convaincue que chaque fois qu'un chrétien lève les yeux, même s'il n'est pas chrétien, lève les yeux vers Dieu pour dire « Seigneur, prends pitié de moi ». Dieu prend pitié de moi. Et donc, quand on fait le chemin de la miséricorde divine, même la haine, on peut s'en libérer. La haine, les blessures intérieures, les conflits, on peut s'en défaire. Donc, je crois que c'est vraiment une prière à faire dans un monde plein de haine, un monde plein d'injustice, un monde plein de violence, un monde plein de blessures. La prière de la miséricorde divine est là pour nous apaiser.
Sœur Marceline Ebia, religieuse ivoirienne de la communauté Mère du Divin Amour et enseignante chercheure en philosophie à l'UQAO à Abidjan en Côte d'Ivoire. Elle était interrogée par Jacques Ngol.
Pour plus d'informations et de nouvelles, consultez notre site internet www.vaticannews.va.
C'est par ici que nous mettons un point final à notre programme aujourd'hui. Au nom de toute l'équipe du service Français-Afrique des Radios Vatican, Stanislas Kambashi, qui vous l'a présenté, vous dit merci de l'avoir suivi. Restez branchés sur nos programmes.